Arthur Gobineau, Nouvelles Asiatiques, Histoire de Gamber Ali, Perse. Il y avait à Schiraz un peintre appelé Mirzan Hassan, et on ajoutait Khan, non pas qu'il fût le moins du monde décoré d'un titre de noblesse, seulement sa famille avait jugé à propos de lui conférer le kana dès sa naissance. C'est une précaution souvent usitée, car il est agréable de passer pour un honnête homme distingué. Et si par hasard le roi oubliait à perpétuité de vous accorder une qualification à tout le moins élégante, où est le mal de la prendre? Mirza Hassan s'appelait donc Mirza Hassan Khan, gros comme le bras, et quand on lui parlait, on l'apostrophait toujours ainsi: Comment vous portez-vous, Khan? Ce qu'il recevait sans sourciller. Malheureusement, sa situation de fortune n'était pas propre à soutenir son rang. Il habitait une maison modeste, pour ne pas dire misérable, dans une des ruelles avoisinant le bazar de l'émir, encore debout en ce temps-là, n'ayant pas été secoué par les tremblements de terre. Cette demeure, où l'on entrait par une porte basse, percée dans un mur sans fenêtre ni lucarne, consistait en une cour carrée de 8 mètres de côté, avec un bassin d'eau au centre et un pauvre diable de palmier dans un coin. Le palmier ressemblait à un plumeau en détresse et l'eau du bassin croupissait. Deux chambres en ruine n'avaient plus de toiture. Une troisième restait à moitié couverte. La quatrième tenait bon. Le peintre y avait établi son nderum, c'est-à-dire l'appartement de sa femme, Bibi Djanem, Madame Moncoeur, et il recevait ses amis dans l'autre pièce, où l'on jouissait de l'avantage d'être moitié à l'ombre et moitié au soleil, puisqu'il ne restait qu'un fragment de plafond. Du reste, Mirza Hassan Khan vivait en parfaite intelligence avec Bibi Djanem, toutes les fois que celle-ci n'était pas contrariée. Mais si par hasard elle avait à se plaindre d'une voisine, si on lui avait tenu au bain, où elle passait 6 à 8 heures le mercredi, quelques propos douteux quant aux mœurs ou aux allures de son époux, alors, il faut l'avouer, les coups pleuvaient sur les oreilles du coupable. Aucune dame de Schiraz, ni même de toute la province de Fars, ne pouvait prétendre à manier cette arme dangereuse, la pantoufle, aussi adroitement que Bibi Djanem, passée maîtresse en ce genre d'escrime. Elle vous saisissait l'instrument terrible par la pointe et, avec une adresse merveilleuse, assénait de çà de là le talon ferré sur la tête, sur la figure, sur les mains de son malheureux conjoint. Rien que d'y penser donne le frisson. Mais, encore une fois, c'était un ménage heureux. De pareilles catastrophes ne se renouvelaient guère plus souvent que 2 fois par semaine, et le reste du temps, on fumait ensemble kalian, on prenait du thé bien sucré dans de la porcelaine anglaise, et on chantait les chansons du bazar en s'accompagnant avec le kemanjé. Mirza Hassan Khan se plaignait non sans raison de la dureté des temps, qui le plus souvent l'obligeait à tenir engagée la majeure partie de ses effets, et quelquefois ceux de sa femme. Mais à moins de se résigner à cet ennui, il n'aurait jamais fallu songer à se régaler de confitures, de pâtisseries, de vin de Shiraz, de raki, ce qui n'était pas probable. On se résignait donc. On empruntait à ses amis, aux marchands, aux juifs, et, comme c'était une opération toujours difficile, attendu que le khan jouissait d'un faible crédit, on livrait des habits, des tapis, des coffres, ce qu'on avait. Lorsque le bonheur venait à sourire et laissait tomber quelques pièces de monnaie dans les mains du ménage, on appliquait un système financier très sage. On s'amusait avec un tiers de l'argent, avec l'autre on spéculait, et avec le troisième on dégageait quelque objet regretté ou bien on amortissait la petite dette publique. Cette dernière combinaison était rare. Il ne faut pas chercher loin les causes d'une situation si triste. Des gens moroses et inquiets prétendaient les trouver dans le désordre et l'imprévoyance chronique des époux. Pure calomnie! L'unique raison, c'était l'indifférence coupable des contemporains pour les gens de naissance et de talent. L'art était dans le marasme, il faut tout dire, et ce marasme tombait droit sur Misama Sankan et sa femme Bibi Janem. Les calendans ou encriers peints se vendaient mal, les coffrets étaient peu demandés. Des concurrents déloyaux et sans le moindre mérite fabriquaient des dessous de miroirs dont ils auraient dû rougir et n'avaient pas plus la honte de les abandonner à vil prix. Enfin, les reliures de livres passaient de mode. Le peintre, quand il arrêtait sa pensée sur ce déplorable sujet, débordait en paroles amères. Il se considérait comme la dernière et la plus pure gloire de l'école de Shiraz, dont les principes hardiment coloristes lui semblaient supérieurs aux élégantes manières des artistes hispanistes. Il ne se lassait pas de le proclamer. Personne à son gré ne l'égalait. Comment ne l'égalait ? Ne l'approchait dans la représentation vivante des oiseaux. On eût pu cueillir ses iris et ses roses, manger ses noisettes, et quand il se mêlait de représenter des figures, il se surpassait lui-même. Sans aucun doute, si ce fameux Européen qui a composé autrefois une image d'Ersem el Meriem, son Altesse la Vierge Marie, tenant sur ses genoux le prophète Issa dans sa petite enfance, la bénédiction de Dieu soit sur lui et le salut, avait pu contempler la manière dont il le copiait, comme il rendait le nez d'Esvret Esmeriem et la jambe de Bambin, et surtout, surtout, le dossier de la chaise. Ce fameux Européen, dis-je, se serait jeté aux pieds de Mirza Samkan et lui aurait dit « Mais quel chien suis-je donc pour baiser la poussière de tes souliers ?» Cette opinion, sans doute juste, que Mirza Hassan Khan avait de sa valeur personnelle, ne lui appartenait pas exclusivement, circonstance bien flatteuse et qu'il aimait à relever. Si les gens grossiers, les marchands, les artisans, les chalands de rencontre lui payaient mal ses ouvrages et l'insultaient en discutant le prix, il était dédommagé par les suffrages des hommes éclairés et dignes de respect. Son Altesse royale, le prince-gouverneur, l'honorait de temps en temps d'une commande. Le chef de la religion lui-même, l'imam Djoumé de Skira, ce vénérable pontife, ce saint, ce majestueux, cet auguste personnage et le vizir du prince, et encore le chef des coureurs, ne consentait pas à recevoir dans leur noble poche un encrier qui ne fût pas de sa fabrique. Se pourrait-il concevoir, il y a de plus propre à donner une idée exacte de l'habileté du génie même déployé par ce peintre hors ligne qui avait le bonheur de s'appeler Mirza Hassan Khan. C'était pourtant dommage. Tant d'illustres protecteurs de l'art croyaient faire assez pour leur grand homme en acceptant ses œuvres et oubliaient toujours de le payer. Il était assez simple pour ne pas le leur rappeler. Il se contentait d'en gémir et de parer de son mieux les coups de pantoufle arrivant à chaque déconvenu de ce genre, car Bibi Janem ne manquait pas d'attribuer tout ce qui au monde se produisait de fâcheux à la bêtise, à l'ineptie ou à la légèreté de son cher époux. Ce couple avait un fils déjà assez grand et qui promettait de devenir un fort joli garçon. Sa mère en raffolait, elle l'avait appelé Gamber Ali. Mirza Samkan avait proposé de le doter de son titre, devenu héréditaire, mais Bibi Janem s'y était opposée avec force et parlant à son mari comme elle en avait l'habitude. « Mais Nigaud, lui avait-elle dit, laisse-moi en repos et ne me fatigue pas les oreilles de tes sottises. N'es-tu pas le fils, le propre fils de Jaffer, le marmiton? Existe-t-il quelqu'un qui l'ignore? D'ailleurs, à quoi t'a-t-il servi de t'intituler comme tu fais? On se moque de toi, et tu n'en gagnes pas plus d'argent. Non, non, mon fils n'a pas besoin de ces absurdités. Il a de meilleurs moyens de faire fortune. Quand j'étais grosse de lui, j'ai accompli à son intention un pèlerinage à l'imam Zadem Kassem, et cette dévotion ne manque jamais son effet. Et quand il est né, je m'étais pourvu à l'avance de l'astrologue. Moi, entends-tu, et non pas toi, mauvais père, car tu ne songes jamais à rien d'utile. Je m'étais précautionné, dis-je, d'un astrologue excellent. Je lui ai donné 2 sahab crans, 3 francs. Il m'a bien promis que Gamber Ali, s'il plairait à Dieu, deviendrait premier ministre. Oh, il le deviendra, j'en suis certaine. Car aussitôt j'ai cousu à son cou un petit sac contenant des grains bleus pour lui porter bonheur et des grains rouges pour lui donner du courage. Je lui ai mis aux 2 bras des boîtes à talismans où sont renfermés des versets du livre de Dieu qui le préserveront de tout malheur. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, avait répondu Mirza Hassam d'une voix profonde et avec docilité. Et voilà comme Amber Ali fut lancé dans l'existence par les soins d'une mère prudente. Pourvu comme il l'était de toutes les sauvegardes nécessaires, la raison voulait qu'on lui accordât une honnête liberté. Il put donc à son gré, jusqu'à l'âge de 7 ans, se promener tout nu dans son quartier, avec ses jeunes compagnons et ses jeunes compagnes. Il devint de bonne heure la terreur des épiciers et des marchands de comestibles, dont il savait à merveille détourner les dattes, les concombres et quelquefois même les brochettes de viande rôtie. Quand on l'attrapait, on l'injuriait, ce qui lui était parfaitement égal, et quelquefois on le battait, mais pas souvent, parce qu'on craignait sa mère. Elle était en ces occasions comme une lionne et plus terrible encore. À peine le petit Gamber Ali se réfugiait-il auprès d'elle, noyé dans ses larmes, en se frottant d'une main les parties offensées par l'irascible marchand et s'essuyant de l'autre les yeux et le nez. À peine la matrone avait-elle réussi à saisir à travers les sanglots et les cris le nom du coupable, qu'elle ne perdait pas une minute. Elle ajustait son voile et se précipitait hors de sa porte comme une trombe, secouant les bras en l'air et poussant ce cri « Musulmane, on égorge nos enfants !» À cet appel, 5 à 6 commères, qui, mus par un esprit belliqueux, étaient accoutumés à lui servir d'auxiliaire dans les expéditions de cette sorte, accouraient du fond de leur demeure et la suivaient en hurlant et en gesticulant comme elle. En route, on se recrutait et on arrivait en force devant la boutique du coupable. Le scélérat voulait s'expliquer, on ne l'écoutait pas, on faisait main basse sur tout. Les désœuvrés du bazar s'empressaient de se mêler à l'action, les gens de la police se jetaient dans la bagarre et cherchaient vainement à rétablir l'ordre à coups de pied de Gaulle. Ce qui pouvait arriver de plus heureux aux marchands, c'était de ne pas être mis en prison, car une amende, il finissait toujours par la payer, s'étant permis de troubler la paix publique. Insensiblement, Gamber Ali arriva à ce jour solennel où sa mère, interrompant ses ébats, lui passa un chawar au pantalon, lui mit un koulidje ou tunique, une ceinture et un bonnet, et l'envoya à l'école. Il faut bien que tout le monde passe par là. Gamber Ali le savait et se résigna. D'abord, il fréquenta l'établissement d'instruction de Moulla Saleh, dont la boutique était située derrière entre celle d'un boucher et celle d'un tailleur. Une quinzaine d'élèves, filles et garçons, se tenaient là, pressés avec le maître comme des oranges dans un panier, car l'espace était à peine de quelques pieds. On apprenait à lire et à réciter des prières, et du matin au soir, les environs étaient ahuris par la psalmodie de la bande étudiante. Gober Ali ne resta pas longtemps chez Moula Saleh, parce que cet illustre professeur, ayant été conducteur de mulets de caravane avant de se consacrer à l'enseignement public, avait la mauvaise habitude de taper très fort sur ses élèves quand ils se laissaient aller à des espiègleries à l'égard des passants, au lieu de donner toute leur attention à ses doctes avis. Gaber Ali se plaignit à sa mère, qui fit une éruption chez le professeur, lui jeta à la tête les 3 sous qu'elle lui devait pour le mois échu, et lui déclara net qu'il ne verrait plus son fils. Au sortir de cette école, le petit bonhomme passa sur l'établi de Moulia Youssef, où il étudia 6 mois. Après ce temps, l'école ferma, attendu que le maître se fit droguiste et abandonna la turban blanc de la science pour le bonnet de peau de la vie civile. Le troisième instituteur de Gaber Ali fut un ancien mousquetaire d'un ancien gouverneur dont la tradition ne savait plus qu'un trait, c'était d'avoir eu le cou coupé. Moula Youssef, quand il parlait de ce patron, assurait d'un air convaincu que le juge n'avait pas prévariqué. Pour lui, il était doux, aimait les enfants, ne les battait pas, vantait leurs projets, recevait, outre son salaire régulier, beaucoup de petits cadeaux des mères enchantées de ses façons d'être. Sa maison voyait affluer les gâteaux au miel, les pâtisseries en farine crue, pétries dans la graisse de mouton, et saupoudrées de sucre, sans compter les fruits confits et le rakis. À 16 ans, Gaber Ali avait terminé son éducation. Il lisait, écrivait, calculait. Il connaissait par cœur toutes les prières légales, pouvait même chanter les ménadjat, savait un peu d'arabe, récitait d'une voix très agréable quelques poésies lyriques et des fragments d'épopées, et aimait sincèrement ses parents. Il éprouvait une envie folle de courir les aventures et de s'amuser à tout prix, sauf au prix de sa peau, car il était extrêmement poltron. Cette qualité ne l'empêcha pas non plus que la plupart de ses condisciples entraient en même temps que lui dans le monde, de prendre les façons, les allures, le débraillé, qui en Perse caractérise ce qu'on nomme en Andalousie les majos, c'est-à-dire les jeunes gens élégants de la basse classe. Il eut de larges pantalons de coton bleu, fort sales, une tunique de feutre gris à double manche tombante, la chemise ouverte et laissant sa poitrine libre, le bonnet sur l'oreille, le gamma ou sabre large et pointu à 2 tranchants tombant sur le devant de sa ceinture et servant d'appui à sa main droite, tandis que de la gauche il tenait une fleur, quelquefois placée dans sa bouche. Cette allure de fanfaron lui seyait à merveille. Il avait des cheveux bouclés, d'un noir admirable, des yeux peints de corolle, aussi beaux que ceux d'une femme, une taille de 6 près et, dans tous ses mouvements, de la grâce à revendre. Dans cette jeunesse et cet équipage, il fréquentait les averniers arméniens. Il y trouvait, sans doute, peu de musulmans rigides, mais en revanche, beaucoup d'étourneaux de son espèce, des vagabonds dangereux, de ceux qu'on appelle loutis ou dépenaillés, et qui regardent aussi peu à donner un coup de couteau pour passer leur colère qu'à se verser un verre de vin. En un mot, il voyait fort mauvaise compagnie, ce qui pour beaucoup de gens d'humeur joviale équivaut à s'amuser parfaitement. Et où se procurait-il l'argent indispensable à cette existence délicieuse? C'est ce que, pour bien des raisons, on aurait tort de rechercher de près, et cette façon de s'établir des rentes aurait pour eux le conduire où il n'avait pas envie d'aller, si sa destinée, dirigée ou prévue par l'habileté de l'astrologue, n'avait tracé assez promptement la ligne qu'il devait suivre. Et cet événement arriva un des premiers jours de la pleine lune de Chaban. Vers 4 heures après la prière du soir, il s'était rendu dans un bon petit cabaret assez peu éloigné du tombeau où dort le poète Hafiz. Il y avait la belle assemblée, deux Kurdes de mauvaise mine, un moulia de ceux qui vendent des contrats de mariage pour des termes de 2 jours, 24 heures et au-dessous, manière de morale peu approuvée par la partie pédante du clergé, 4 muletiers, fort gaillards, que l'aspect des Kurdes intimidait inutilement, et 2 petits jeunes gens, les pareils de Gamber Ali, un énorme tebji ou artilleur, ordinaire du Khorasan, long à n'en plus finir, mais large à proportion, ce qui rétablissait l'équilibre. Plus un skdirtmet ou valet de chambre du prince-gouverneur, venu là en contrebande. L'Arménien, hôte du logis, étendit une peau de bœuf sur le tapis et apporta successivement des amandes grillées, ce qui excite à boire, du fromage blanc, du pain et des brochettes de kebab ou filets de mouton rôti entre des fragments de graisse et des feuilles de laurier, le nec plus ultra de la délicatesse. Au milieu de ces bagatelles furent placées solennellement 12 de ces baggalis ou flacons de verre aplatis que les buveurs timorés peuvent aisément cacher sous leurs bras et emporter au logis sans que personne s'en aperçoive, et qui ne contiennent rien moins que du vin ou de l'eau-de-vie. On but assez tranquillement pendant 2 heures. Les propos étaient agréables, tels qu'on devait les attendre de gens aussi distingués. On venait d'apporter des chandelles et de les mettre sur la nappe avec un nouveau train de bouteilles, quand le moulla interrompit un des 2 Kurdes qui, à tue-tête et du fond de son nez, chantait un air lamentable et fit la proposition que voici. « Excellence, puisque les miroirs de mes yeux ont le bonheur insigne de refléter aujourd'hui tant de physionomies avenantes, il me vient l'idée de présenter une offre qui sera sans doute accueillie avec indulgence par quelqu'un des illustres membres de la société. L'excès de la bonté de votre excellence me transporte, répondit un des muletiers, qui avait encore un certain sang-froid, mais dodelinait de la tête d'une manière à donner le vertige. Oh, tout ce que vous allez nous ordonner est précisément ce que nous allons faire. « Que votre indulgence ne diminue pas, repartit le mouillard. Je connais une jeune personne, elle désire se marier avec un homme de considération, et je lui ai promis de lui découvrir un époux digne d'elle. À vous parler en toute confiance, comme on le doit avec des amis éprouvés, et pour ne rien vous dissimuler de la vérité la plus exacte, la dame en question est d'une beauté à faire pâlir les rayons du soleil, et à désespérer la lune elle-même. Les plus scintillantes étoiles sont des cailloux sans lustre auprès du diamant de ses yeux. Sa taille est comme un rameau de saule, et quand elle appuie son pied sur la terre dit merci et se pâme d'amour. » Cette description, qui rendait pourtant un compte assez avantageux de l'ami du moula, ne produisit que peu d'effet. Et si peu qu'un des loutis se mit à chanter avec un tremblement de voix qui ressemblait à un gargarisme. Le premier ministre est un âne et le roi ne vaut pas mieux. C'était le début d'une chanson nouvellement importée de Téhéran. Le moulla ne se laissa pas détourner de son idée et continua d'une voix larmoyante qui luttait avec avantage contre le chevrotement nasal de son camarade. « Excellence, cette divine perfection possède derrière le bazar des chaudronniers une maison de 3 chambres, 8 tapis, presque 9 et 5 coffres remplis d'habits. Elle a de plus des cabalets ou contrats pour de pas mal d'argent. » Je n'en connais pas la somme, mais elle ne saurait être inférieure à 80 tomans. Ce second chapitre des qualités de la fiancée réveilla tout le monde, et l'un des loutis s'écria: Mais me voilà, elle veut un mari, qu'elle me prenne. Vous trouverez-elle aussi bien? Vous me connaissez, Moula. Si je ne l'ai pas, je meurs d'amour et de regret. Là-dessus, il se mit à pleurer, et pour donner une idée de la force de ses sentiments, il tira son gamma et voulut s'en appliquer un bon coup sur la tête. Mais le canonnier le retint, et comme chacun, devenu attentif, s'apercevait que le moulin n'avait pas tout dit, on conjura celui-ci d'aller jusqu'au bout du panégyrique, afin de savoir s'il n'y avait pas quelque ombre au tableau délicieux qu'il venait de tracer. Une ombre, Excellence, oh, que votre bonté ne diminue pas. Puissent toutes les bénédictions tomber comme une pluie sur vos nobles têtes. Mais quelle ombre pourrait-il y avoir? Une beauté incomparable, est-ce une tâche? Une fortune comme celle que je viens de vous supputer, est-ce un défaut? Une vertu immaculée, et comparable seulement à celle des épouses du prophète, sera-ce pour vous un motif de blâme? Oh, cette vertu, magnanime Seigneur, elle n'est pas de celle que l'on affirme sans pouvoir les démontrer. Elle est incontestable, établie sur preuve sans réplique. Et ces preuves, les voici. Ce sont des lettres de Thomé, dictées de ce matin. Ah, ces mots, l'enthousiasme ne connut plus de bornes. Le loutis, qu'on avait empêché tout à l'heure de s'assommer lui-même, profita du moment où chacun, s'absorbant dans sa propre pensée, levait les yeux et les mains au ciel en murmurant Bé, 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 et s'administra une balafre sur le crâne qui se mit à saigner. Pendant ce temps, le moulin avait déplié le précieux document et, le mettant sous les yeux de son public, commença à lire d'une voix imposante. Mais avant de se joindre aux auditeurs si vivement intéressés, il faut que le lecteur sache ce que sont les lettres de Tobé. Quand une dame a donné des occasions de scandale trop indiscrètement répétées, l'opinion publique se tourne malheureusement contre elle et il en résulte des propos fâcheux. Alors le juge prend l'étourdi sous sa conduite. Il lui demande des cadeaux fréquents, il se tient au courant de ses faits et gestes, et après quelques mésaventures, la dame, assez généralement, éprouve le besoin de changer de vie. Elle ne peut y parvenir qu'en se mariant. Mais comment se marier dans une situation aussi difficile que la sienne? Oh, d'une façon toute simple. Elle va trouver un personnage religieux, lui expose son cas, lui peint sa désolation, et le personnage religieux tire son écritoire. Il lui remet un bout de papier attestant le regret du passé qui dévore la pénitente, et comme Dieu est essentiellement miséricordieux, lorsqu'on a le ferme propos de ne pas retomber dans ses torts, l'ancienne pécheresse se trouve blanchie de la tête aux pieds. Personne n'a plus le moindre droit de suspecter la solidité de ses principes. Elle est aussi mariable que n'importe quelle autre fille, pourvu qu'elle trouve un époux. Il ne peut se rien voir de plus admirable que cette transformation subite, et elle ne coûte pas cher, se faisant même à prix débattu. Le moulin lut donc, d'une voix claire et incisive, le document dont la teneur suit. La nommée Bulbul, Rossignol, ayant eu le malheur de mener pendant plusieurs années une conduite inconsidérée, nous affirme qu'elle le déplore profondément et regrette d'avoir affligé l'âme des gens vertueux. Nous attestons ce repentir qui nous est connu et nous déclarons sa faute effacée. Et au-dessous de l'écriture, il y avait la date qui se trouvait être en effet celle du matin et le cachet d'un des principaux ecclésiastiques de la ville. La lecture n'était pas achevée que le plus ivre des deux Kurdes se déclara résolu à tuer tout personnage assez imprudent pour lui disputer la main de la protéger du mouflard. Mais le canonnier ne se laissa pas intimider et allongea au provocateur un coup de poing en plein visage, sur quoi un des camarades de Gamber Ali jeta un des flacons à la tête d'un des muletiers, tandis que l'autre, presque aussitôt, lui renversait le moulage sur le corps. Oh, ici la mêlée devint générale. Le pishkebdet du prince, personnage officiel, avait des mesures à garder. Il comprit instinctivement que sa dignité se trouvait engagée et que, s'il est désagréable en soi-même de recevoir des coups, il peut être compromettant d'emporter les traces sur le nez ou sur tout autre endroit du visage. Car comment espérer que des gens grossiers tiendront compte des considérations les plus nécessaires? Le digne serviteur, se levant donc de son mieux et s'assurant sur ses jambes, tout en se garantissant la tête avec les mains, fit un mouvement pour se retirer, mais sa pantomime fut mal interprétée. Quelques-uns des combattants s'imaginèrent qu'il avait l'idée d'aller quérir la garde. Ils se réunirent donc contre lui dans un commun effort, mais ils n'étaient pas tous à ses côtés. Et Gamber Ali se trouva faire matelas entre le pauvre Pshiskeblet et ses assaillants, parmi lesquels se distinguaient deux des muletiers, plus ivres et parlant plus furieux que les autres. Le malheureux fils du peintre était dans le délire de la peur. Il poussait des cris aigus et appelait sa mère à son aide. Assurément, la vaillante Bibi Djanem ne se serait pas laissée adjurer en vain par l'enfant chéri de ses entrailles, hélas. Elle était loin et n'entendait pas. Cependant, Gamber Ali avait entouré le Pishkedmet de ses bras, le serrait avec force, et plus il recevait de coups adressés au pauvre homme, plus il le suppliait de le sauver par tout ce qu'il y avait de plus sacré au monde, et c'était lui-même qui, sans s'en douter, servait de bouclier rudement frappé à celui qui l'implorait. Il est probable que la lutte aurait fini au grand dommage du dignitaire du palais et du petit jeune homme, si le cabaretier arménien, grand gaillard vigoureux et accoutumé de longues mains à de pareilles scènes, qui ne lui causait ni étonnement ni émotion, n'était tout à coup apparu dans la chambre. Sans s'amuser à savoir qui avait tort ou raison, il empoigna d'une main le collet du Pishkedmet, de l'autre le dos de l'habit de Gamber Ali et, par une poussée vigoureuse, lança les deux infortunés au travers de la porte ouverte qu'il referma derrière eux. Ils allèrent rouler sur le sable, chacun de leur côté, et restèrent un bon moment étourdis du choc et éprouvant de la difficulté à se relever. Cependant, la même idée leur travaillait la cervelle. Sans se rien dire, ils étaient dans une égale angoisse que la garnison ne fit une sortie et, jugeant fort à propos de gagner le large, par un violent effort, ils se remirent sur leurs pieds. Le Pishkedmet dit à Gamber Ali « Fils de bon dame, continue à me défendre, ne m'abandonne pas. Les saints imams te béniront. » Gamber Ali n'avait garde de chercher la solitude. Il se rapprocha de son protégé et tous deux, se tenant par la main, flageolant un peu, sortirent au plus vite de l'impasse où était situé le cabaret. Puis quand ils se trouvèrent sur la route, le courage et la voix leur revinrent. « Gamber Ali, dit le domestique du palais, les lions n'ont pas tant d'intrépidité que toi. Tu m'as sauvé la vie et, par Dieu, je ne t'oublierai jamais. Tu n'auras pas obligé un ingrat. Je ferai ta fortune. Viens me trouver demain au palais et, si je ne suis pas sur la porte, fais-moi demander. J'aurai certainement quelque chose à t'annoncer. » Mais avant tout, jure-moi que tu ne parleras à personne de ce qui nous est arrivé ce soir, et que tu n'en souffleras pas un mot à ton père, à ta mère, à ton oreiller. Je suis un homme pieux et honoré de tout le monde pour la sévérité des mœurs, dont je ne me départ jamais, alors tu comprends, lumière de mes yeux, que si l'on venait à me calomnier, j'en éprouverais beaucoup de chagrin. » Lambert Ali s'engagea par les serments les plus terribles à ne pas confier, même à une fourmi, le plus taciturne et le plus discret des êtres, le secret de son nouvel ami. Il jura sur la tête de cet ami, sur celle de sa mère, de son père et de ses grands-pères paternels et maternels, et consentit à être appelé fils de chien et de damné s'il ouvrait jamais la bouche sur leur commune aventure. Puis, après avoir multiplié ses redoutables serments pendant un gros quart d'heure, il prit congé du Pichquedmet, un peu calmé, qu'il embrassa sur les yeux et promit d'être fidèle au rendez-vous assigné pour le lendemain matin. Gamber Ali avait souffert d'être battu et il avait craint d'être assommé. Le danger passé et la douleur des meurtrissures un peu amoirtie, il se sentit fort libre. Il n'en était pas à sa première affaire et n'avait pas de motif analogue à ceux du Pichquedmet pour s'inquiéter de sa réputation. Il put donc, sans distraction, laisser son imagination s'allumer sur les promesses qu'il venait de recevoir, et la tête pleine de feux d'artifices éblouissants, saturée des splendeurs qui allaient naître, il arriva à la maison paternelle dans la plus belle humeur du monde. Tous les chiens errants du quartier le connaissaient et ne faisaient aucune démonstration hostile contre ses jambes. Les gardiens de nuit, étendus sous les auvents des boutiques, levaient la tête à son approche et le laissaient passer sans le questionner. Il se glissa ainsi dans sa demeure. Là, bien que la nuit fût avancée, il trouva ses dignes parents en face d'un flacon d'eau-de-vie et d'un agneau rôti auquel il manquait une bonne quantité de chair déjà consommée. Bibi Djanem jouait de la mandoline et Mirza Hassan Khan, ayant ôté son habit et son chapeau, la tête rasée de 8 jours et la barbe à moitié peinte en noir avec un pouce de blanc à la racine, frappait avec enthousiasme sur un tambourin. Les deux époux, les yeux blancs d'extase, chantaient à pleine voix de tête « Mon cyprès, ma tulipe, enivrons-nous de l'amour divin !» Gamber Ali s'arrêta respectueusement devant le seuil de la chambre et salua les auteurs de ses jours. Il avait plus que jamais la main droite sur le pommeau de son gamma. Son bonnet était défoncé, sa chemise déchirée, ses boucles de cheveux fort en désordre. Il avait l'air de la vie secrète de Bibi Djanem, qui n'y connaissait de plus délicieux chenapan que le bon goût d'une femme pût rêver. « Assieds-toi, mon chéri, » dit la dame en posant sa guitare, pendant que Mirza Hassan Khan terminait brusquement un trio audacieux et une savante roulade. D'où viens-tu? Tu t'es bien diverti ce soir? Gamber Ali s'accroupit ainsi que sa mère venait de le lui permettre, mais modestement, et restant contre le chambranle de la porte, il répondit: Je viens de sauver la vie au lieutenant du prince gouverneur. Il était attaqué dans la campagne par 20 hommes de guerre, des tigres en fait d'audace et de férocité, tous des Malassénis ou des Bactriaris, je crois bien, car il n'est que ces 2 tribus pour présenter des hommes aussi gigantesques. Alors je les ai abordés et je les ai mis en fuite avec la faveur de Dieu. Là-dessus, Gamber Ali prit une pause modeste. « Voilà cependant le fils que j'ai mis au monde, moi seul !» s'écria Bibi Djanem en dévisageant son mari d'un air de triomphe. « Embrasse-moi, mon âme, embrasse ta mère, ma vie !» Le jeune héros n'eut pas besoin de se déranger beaucoup pour satisfaire la tendresse de son admiratrice. La chambre était exiguë. Il avança un peu le corps et plaça son front sous les lèvres qui se tendaient vers lui. Quant à Mirza Hassan Khan, il se contenta de dire avec un sentiment vraiment pratique « Oh, c'est une bonne affaire !» Et que t'a donné le seigneur lieutenant? Continua Bibi Janem. Mais il m'a invité à déjeuner pour demain au palais. Il me présentera à son Atlas elle-même. Tu vas être nommé général, prononça la mère avec conviction. Ou conseiller d'État, dit le père. Moi, je ne détesterais pas d'être chef de la douane pour commencer, murmura Gamber Ali d'une voix méditative. Il croyait plus d'à moitié ce qu'il venait d'inventer à la minute même, et cela provenait des lois particulières qui régissent l'optique des esprits orientaux. Un pichqued-mètre du prince qui voulait du bien aux pauvres et intéressant Gamber Ali était nécessairement un homme du plus rare mérite, et dès lors, comment n'eût-il pas été le favori de son maître? Et puisqu'il était le favori de son maître, il était son véritable lieutenant. Toute affaire lui était nécessairement confiée, et avec un tel pouvoir, était-il possible d'admettre qu'il lésinât dans les récompenses à accumuler sur la tête de son sauveur? À la vérité, Gamber Ali n'avait pas mis en déroute une bande de farouches et terribles maraudeurs, mais pourquoi aller dire qu'il sortait de la taverne? À qui cette indiscrétion faisait-elle du bien? Ne valait-il pas mieux revêtir toute son histoire d'un vernis honorable, puisqu'elle devait finir pour lui de la façon la plus extraordinaire? D'ailleurs, il était évident, et mon pichqued-maître ne lui avait pas caché, qu'il avait montré un courage au-dessus de tout éloge. Ce que le père, la mère et le fils élaborèrent de rêveries dans cette nuit heureuse ne se pourrait d'enregistrer. Bibi Janem voyait déjà son idole dans la robe de brocart d'un premier ministre, et elle se passait la fantaisie de faire bâtonner la femme du rôtisseur qui avait dit du mal d'elle la veille au soir. Il fallut pourtant dormir un peu. Les trois personnages s'étendirent sur le tapis vers le matin et pendant 3 heures goûtèrent, comme on dit, les douceurs du repos. Mais à l'aube, Gamber Ali sauta sur ses pieds, il fit ses ablutions, débita tant bien que mal et assez sommairement sa prière et s'avança dans la rue en se balançant sur les hanches comme il convenait à un homme de sa qualité. Arrivé devant le palais, il vit, comme d'ordinaire, assis ou debout devant la grande entrée, un nombre de soldats, de domestiques de tous grades, de solliciteurs, de derviches et de gens enfin menés par leurs affaires ou leurs liaisons particulières avec les personnes de la maison. Il se fraya chemin au milieu de la foule, étalant l'insolence particulière aux beaux jeunes garçons, et que l'on souffre d'eux assez aisément, et demanda au portier, d'une voix arrogante, corrigée par un joli sourire, si son ami Assadoullah Beg n'était pas à la maison. Bien le voici précisément, répondit le portier. Que la bonté de votre Excellence ne diminue pas, répliqua Gamber Ali, et il alla au-devant de son protecteur, qui reçut son salut de la façon la plus amicale. Votre fortune est faite, dit Assadoullah, le lion de Dieu. Mais c'est par un effet de votre miséricorde. Bon, vous méritez tout en fait de bien. Voici ce dont il s'agit. J'ai parlé de vous au Ferrash Habashi, chef des étendeurs de tapis de son Altesse. C'est mon ami un homme des plus vertueux et des plus honorables. J'aurais tort de vanter son intégrité, tout le monde la connaît. La justice, la vérité, le désintéressement brillent dans sa conduite. Il consent à vous admettre parmi ses subordonnés, et à dater de ce jour, vous en faites partie. Naturellement, il faut que vous lui présentiez un petit cadeau, mais il tient si peu au bien de ce monde que ce sera uniquement pour lui témoigner votre respect. Vous lui remettrez 5 tomans en or et 4 pains de sucre. Que le salut du prophète soit sur lui, répliqua Gamber Ali, un peu déconcerté. Oserais-je vous demander quels seront mes gages dans les fonctions illustres que je vais remplir? Vos gages, dit à demi-voix le lion de Dieu, d'un ton confidentiel et en regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne l'écoutait. Vos gages sont de 8 sahab gras, à peu près 10 francs par mois. Mais l'intendant de son Altesse n'en paie généralement que 6. Vous lui en laissez 2 pour sa peine, il vous en reste donc 4. Vous ne voudriez pas témoigner de l'ingratitude à votre digne chef en ne lui en offrant pas au moins la moitié. Bon, je vous connais, vous en êtes incapable. Ce serait le procédé le plus inconvenant. Nous disions donc qu'il vous reste 2 sabres grands. Et que pouvez-vous en faire si ce n'est d'en régaler la Naïbie Ferrache, le chef de votre escouade, pour vous en faire un ami sûr et dévoué, car ne vous y trompez pas. Sous des formes un peu abruptes, c'est un cœur d'or. Puisse le ciel le combler de ses bénédictions, repartit Gamber Ali, devenu fort triste. Mais que me restera-t-il à moi ? Je vais vous le dire, mon enfant, reprit le lion de Dieu, de l'air grave et composé qu'il seyait si bien à sa haute expérience et à son immense barbe. Chaque fois que vous irez porter un cadeau à quelqu'un de la part du prince ou de vos supérieurs, naturellement, vous recevrez une récompense des personnes honorées et de pareilles faveurs. Et d'autant plus que vous êtes fort gentil, mon enfant. Alors, il faudra sans doute que vous partagiez ce que vous aurez accepté avec vos camarades, mais vous n'êtes pas obligé de leur dire exactement ce qu'on aura mis dans vos proches. Il y a là-dessus une petite réserve à faire que vous apprendrez bien promptement. Et ensuite, quand vous serez chargé de donner la bastonnade à quelqu'un, il est d'usage que le patient offre une bagatelle aux exécuteurs, afin qu'il frappe moins fort, ou même tout à fait à côté. Vous aurez là encore un peu d'habitude à acquérir. Ce genre d'adresse innocente vient promptement, surtout à un garçon d'esprit comme vous. Et comme je ne doute pas que vos chefs n'en arrivent promptement à vous estimer, on vous donnera quelques commissions pour aller recueillir les taxes dans les villages. C'est affaire à vous d'accorder vos intérêts avec ceux des paysans, qui ne veulent jamais payer, de l'État, qui veut toujours recevoir, et du prince, qui se fâcherait s'il avait les mains vides. Croyez-moi, ceci est une mine d'or. Enfin, 1000 occasions, 1000 circonstances, 1000 rencontres se présenteront où je ne doute pas un seul instant que vous ne fassiez des merveilles. Et pour moi, je serais vraiment heureux d'avoir pu contribuer à vous mettre dans une bonne situation, une bonne position en ce monde. Gamber Ali saisit le côté séduisant du tableau, si complaisamment détaillé sous ses yeux, et il fut charmé de tant de perfections brillantes. Un seul point l'inquiétait. « Excellence, dit-il d'une voix émue, que toutes les félicités vous récompensent pour le bien que vous faites à un pauvre orphelin sans appui. Mais, ne possédant rien au monde que mon respect pour vous, comment pourrais-je donner 5 tomans et 4 pains de sucre au vénérable Ferrache Bachi ?»« Bon, bien simplement, repartit le lion de Dieu, il est si bon qu'il sait attendre. Vous lui ferez la petite offrande sur vos premiers profits. » Alors en ce cas, j'accepte avec bonheur votre proposition, s'écria Gamber Ali au comble de la joie. Je vais vous présenter à l'instant et vous entrerez en fonction aujourd'hui même. Le pichet de maître tourna alors sur ses talons, emmena son jeune acolyte à travers la foule et le fit pénétrer dans la cour. C'était un grand espace vide entouré de constructions basses exécutés en briques séchées au soleil, de couleur grise, relevés aux angles de cordons de briques cuites au four, et dont les tons rouges donnaient à l'ensemble assez d'éclat. Ici et là, des mosaïques de faïence bleue, ornées de fleurs et d'arabesques, relevaient le tout. Par malheur, une partie des arcades s'était écroulée, d'autres ébréchées. Mais les ruines sont l'essentiel de toute ordonnance asiatique. Au milieu du préau s'étalaient une douzaine de canons, avec ou sans affût, et des artilleurs étaient assis ou couchés alentour. Des djellodars ou écuyers tenaient des chevaux dont les croupes satinées étaient en partie couvertes de housses à fond cramoisi et à broderie bigarrée. Ici, un groupe de ferraches se promenait, la baguette à la main, pour maintenir un bon ordre qui n'existait pas. Plus loin, des soldats faisaient cuire leur repas dans des marmites. Des officiers traversaient la cour d'un air insolent, doux ou poli, suivant qu'ils se souciaient des regards attachés sur eux. On saluait celui-ci. Celui-là, au contraire, s'inclinait respectueusement devant un plus puissant. C'était le train du monde dans tous les royaumes de la terre, seulement avec une complète naïveté. De la grande cour à Saloula, suivi de sa recrue, ébloui par tant de magnificence, pénétra dans un autre enclos, un peu moins vaste, dont le milieu était occupé par un bassin carré rempli d'eau. Les ondes se teignaient agréablement des reflets azurés du revêtement formé par de grandes tuiles émaillées d'un bleu admirable. Sur les marges de ce bassin s'élevaient d'immenses platanes dont les troncs disparaissaient sous les enlacements touffus et plantureux de rosiers gigantesques couverts de fleurs fraîches et multipliées. En face de l'entrée basse et étroite par où les deux amis avaient pénétré, une salle très haute, qu'un Européen aurait prise pour la scène d'un théâtre, car elle était absolument ouverte par devant et reposait sur deux minces colonnes peintes et dorées, montrait, pareil à une toile de fond et à des portants de coulisses, le plus attrayant, le plus séduisant mélange de peinture, de dorure et de glace. De riches tapis couvraient le sol élevé à 6 pieds environ au-dessus du niveau de la cour, et là, appuyé sur des coussins, Son Altesse le prince gouverneur lui-même daignait déjeuner d'un énorme plat de pilau et d'une douzaine de mets contenus dans des porcelaines, entouré de plusieurs seigneurs, d'une belle mine et de ses principaux domestiques. Des trois côtés de la cour que n'occupait pas le salon, deux étaient en décombre, le troisième présentait une rangée de chambres assez habitables. Gaber Ali se sentit très intimidé de se trouver en propre personne, dans un lieu si auguste, et en même temps, il se trouva grand comme le monde, rien que pour avoir eu l'heureuse fortune d'y pénétrer. Désormais, il lui sembla qu'il n'avait plus d'égaux, car sur cette terre, puisqu'il appartenait à un parangon d'autorité qui, sans que personne y trouvât à redire, pouvait le faire mettre en tout petits morceaux. Avant d'être entré dans cette royale demeure, il était parfaitement libre de sa personne et jamais le prince gouverneur, ignorant son existence, n'eût pu aller le chercher. Et désormais, devenu no-care domestique, il faisait partie de la classe heureuse qui comprend le dernier marmiton et le premier ministre. Il pouvait avoir la joie d'entendre le prince s'écrier avant un quart d'heure « Comet Gaber Ali sous le bâton !» Ce qui signifierait évidemment que Gaber Ali n'était pas le premier venu, comme son triste père, puisque le prince voulait bien condescendre à s'occuper de lui. Pendant qu'il s'abandonnait à des réflexions présomptueuses, Hassan Oula lui dit en le poussant du coude, « Voilà le ferrage bâchi, n'ayez pas peur, mon enfant !» La recommandation n'était pas de trop. Le chef des étendeurs de tapis du prince gouverneur de Chirax possédait une mine assez rébarbative. La moitié de son nez était mangée par la maladie qu'on nomme le bouton. Ses moustaches noires pointues s'étendaient à un demi-pied à droite et à gauche de ce nez en ruine. Ses yeux brillaient sombres sous d'épais sourcils et sa démarche paraissait imposante. Il se drapait dans une magnifique robe de laine du Kerman, portait un djoubet ou manteau de drap russe richement galonné, et la peau d'agneau de son bonnet était si fine que, à la voir seulement, on pouvait en calculer le prix à 8 tomans pour le moins, ce qui, d'après les calculs de l'Occident, ne faisait pas moins d'une 100aine de francs. Ce majestueux dignitaire s'avança d'un air compassé vers le Schickedmaître, qui le salua en mettant sa main sur son cœur. Mais Gobert Ali ne se permit pas une pareille familiarité. Il fit glisser ses mains contre ses jambes, du péléo de la cuisse jusqu'au-dessous du genou, et s'étant ainsi incliné, autant que la chose était possible, sans donner du nez à terre, il se redressa, cacha ses doigts dans sa ceinture, et attendit modestement, et les yeux baissés, qu'on lui fît l'honneur de lui adresser la parole. Le Ferrage Bachy passa la main sur sa barbe d'un air approbateur, et par un coup d'œil gracieux avertit à Saloula de sa satisfaction. Celui-ci s'empressa de dire « Oh, le jeune homme a du mérite, il est rempli d'honnêteté et de discrétion. Je puis le jurer sur la tête de votre Excellence. Je sais qu'il recherche les gens convenables et fuit la mauvaise compagnie. Votre Excellence le couvrira certainement de son inépuisable bonté. Il fera tout au monde pour la satisfaire, et nous en sommes expressément convenus. » « C'est au mieux, » répondit le Ferrage Bachy, « mais avant de conclure, j'ai une question à pouvoir adresser en particulier à ce digne jeune homme. » Il prit Gobert Ali à part et lui dit « Le Seigneur Saloula se conduit avec vous comme un père, mais avouez-le-moi, combien lui avez-vous offert ?»« Oh, que votre bonté ne diminue pas, » dit ingénument Gobert Ali, « je ne me permettrai pas d'offrir un cadeau à n'importe qui, alors que ma misérable fortune m'oblige à attendre, en comptant les jours jusqu'à ce que j'aie pu présenter mes respects à votre Excellence. » « Mais au moins, tu lui as promis quelque chose, » reprit le Farage Bachy en souriant. « Combien lui as-tu promis ?»« Mais par votre tête, par celle de vos enfants, » s'écria Gobert Ali, « je ne me suis avancé en aucune manière, me réservant de prendre vos ordres à ce sujet. »« Tu as bien fait. Agis toujours aussi discrètement, et tu t'en trouveras mieux. » Voici le conseil désintéressé que je te donne. Bon, pour ce qui est de moi, ne te gêne pas, je suis trop heureux de pouvoir te servir. Mais comme tu débutes dans le monde, il te faut apprendre à rendre à chacun selon son rang, sans quoi les étoiles elles-mêmes ne pourraient pas fonctionner dans le ciel, et l'univers entier serait la proie du désordre. Tu sais qu'un Schickedmaître n'est pas un Ferrage Bachy. Dès lors, tu ne peux légitimement donner au premier que la moitié juste de ce que tu destines au second. Et afin de te préciser les choses, remets à Hassan Oulad Bey, aussitôt que tu le pourras, 5 tomans et 4 pains de sucre, pas davantage. Tu vois que je tiens à ménager tes petits intérêts. » Là-dessus, le Ferrage Bachy donna une légère tape d'amitié sur la joue de Gobert Ali, et après lui avoir notifié qu'il faisait désormais partie des hommes du prince, il se retira, se rendant où son devoir l'appelait. Le nouveau serviteur des grands ne put s'empêcher d'éprouver quelques soucis de sa situation. Le lion de Dieu ne lui avait indiqué que le tiers de ce qu'il aurait à débourser. Au lieu de 5 tomans et 4 pains de sucre, il se trouvait engagé pour 15 tomans et 12 pains de sucre. Oh, ce n'était pas la même chose. Mais il s'étourdit sur ses misères, remercia avec effusion son protecteur, baisa le bas de sa robe et, comme il en avait désormais le droit, se mit à errer de côté et d'autre dans les cours du palais, accostant ses camarades, dont il connaissait déjà quelques-uns pour les avoir rencontrés chez les jeunes gens rangés qu'il fréquentait d'ordinaire, et liant conversation avec les autres. Il fut tout de suite apprécié et on lui témoigna des amitiés incroyables. Le thé du prince lui parut bon, et il put même faire passer, sans qu'on y prît trop garde, un certain nombre de morceaux de sucre dans ses poches. Ensuite, on joua à toutes sortes de jeux inoffensifs, et comme Gambert Ali n'y était pas novice, il retira de cette opération, conduite avec art, une douzaine de sabres grands, une quinzaine de francs et l'estime générale. Bref, il parut à chacun ce qu'il était en réalité, un fort joli garçon au physique et au moral.